Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeurs de Galade, bonjour. C'est Poker Menteur, votre émission mensuelle préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication non violente. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, suspense, vous allez le savoir très rapidement. Mais avant, nous écoutons notre habituelle chronique géopolitique de Jean-François. Fenêtre sur le monde, c'est parti Jean-François.
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Bonjour Jeff.
Bonjour Geneviève.
Alors, du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh ben, je vais parler de l'Italie. L'Italie qui va bientôt avoir un nouveau gouvernement. Ce n'est pas pour tout de suite parce que le processus est un petit peu long, mais les élections législatives ont donné leur favori pour ce nouveau gouvernement qui est Giorgia Meloni. Alors, qui est Giorgia Meloni ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, je voulais commencer par recontextualiser, historiser un petit peu. Donc, 100 ans après la marche sur Rome et la prise de pouvoir de Mussolini, l'Italie vient de mettre un parti nostalgique du fascisme à la tête de l'État. En effet, le 25 septembre dernier, l'Alliance des droites, dirigée par le parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, a obtenu avec plus de 44% des suffrages une majorité claire et nette, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Giorgia Meloni, chef de Fratelli d'Italia, va donc, dans les prochains jours, devenir la première femme à siéger à la présidence du Conseil italien.
Ça, c'est une super nouvelle, une femme au gouvernement.
C'est un petit peu un paradoxe. D'un côté, c'est une super nouvelle. De l'autre côté, son petit passé fasciste, voilà.
Ah, ça, c'est nettement moins bonne nouvelle. Hein.
Voilà.
Tu pourrais nous faire son portrait, là, comme ça en...
Allez, c'est parti. Giorgia Meloni est une femme jeune, puisqu'elle est née en 1977. Oui, quand on est en 77, on est jeune. Mais
ah,
son CV en politique est déjà impressionnant. Elle vient d'un quartier populaire de Rome. Sa mère a dû cumuler 2 emplois pour pallier l'absence d'un père parti profiter de sa vie, hein, au lieu d'assumer ses responsabilités. L'enfance de Giorgia n'est donc pas facile et elle trouve une seconde famille au sein du Front de la Jeunesse, la branche jeunesse du MSI, le Mouvement Social Italien, qui est le parti néo-fasciste italien né après la Seconde Guerre mondiale. Son ascension est ensuite très rapide puisqu'à 29 ans, elle entre au Parlement pour être aussitôt désignée vice-présidente de la Chambre. Elle devient alors la plus jeune politique de l'histoire italienne à occuper cette fonction. 2 ans plus tard, elle est déjà ministre à la jeunesse, ce qui lui vaut la une des médias et beaucoup d'estime. En 2012, elle fonde Fratelli d'Italia, parti qu'elle vient d'amener au sommet de la politique italienne.
D'accord. Alors, comment justement un parti aussi récent a-t-il réussi à remporter l'adhésion d'autant d'Italiens ?
Alors, les débuts de ce parti peuvent être qualifiés quand même de timides, hein, on ne va pas se mentir. Ainsi, ils n'ont que 2% l'objectif de 2013. Ils reçoivent 4% en 2018, jusqu'à l'accélération de ces dernières années, fruit de son opposition solitaire au gouvernement de Mario Draghi. Sa victoire récente tient finalement de la volatilité des votes d'un grand nombre d'électeurs italiens, des citoyens qui cherchent un sauveur pour la patrie. On parle ici d'Italiens libérés de tout conditionnement idéologique, hein, on n'est plus dans ce système-là. Ils sont politiquement désinhibés, quitte à voter pour des néo-fascistes. Voilà. Giorgia Meloni a ainsi bénéficié des transferts de voix d'électeurs venus de la Ligue, le parti d'extrême droite, ou du mouvement 5 étoiles, qui est un parti anti-système. Mais on ne peut pas exclure non plus des votes venant du parti démocrate de Matteo Renzi, situé au centre-gauche de l'échiquier politique italien. Au final, Meloni a bénéficié d'un contexte économique morose et de la délégitimation des partis politiques au pouvoir ces dernières années pour s'imposer.
D'accord. C'est très rassurant tout ce que tu nous expliques. Hein. Et qu'en est-il de l'identité fasciste des Fratelli d'Italia ?
Ah ben, Fratelli d'Italia utilise encore des symboles du fascisme mussolinien, comme la flamme tricolore hein, ou encore la devise « Dieu, famille, patrie ». Tu vois le programme ?
Voilà. Oui, ça me rappelle vaguement quelque chose programme aussi, hein. Du régime de Vichy.
Voilà.
Vaguement. Hein.
Les militants et certains dirigeants utilisent aussi de nombreuses références fascistes. Hein. Elles s'entourent aussi de fascistes invintérés quand même, on ne va pas se mentir. Il est également vrai, peut-être par crainte de répercussions internes au parti, que Meloni n'a condamné publiquement la dictature fasciste que très récemment. Et chez Meloni, la défense des frontières passe avant la défense des droits civiques et des droits humains. Ainsi, elle n'a pas hésité à faire barrage à la candidature à la région Sicile de son ancienne alliée, Stefania Prestigiacomo, de Forza Italia, sous prétexte que celle-ci avait montré son soutien à une ONG sauvant des migrants des eaux de la Méditerranée. Pour résumer, Giorgia Meloni est pour sauver des vies humaines, mais les vies des gens de couleur valent moins que celles des Italiens de souche. Pour finir, on peut dire qu'elle a de l'empathie pour le fascisme, mais qu'elle essaye tout de même de transformer son parti et de reléguer le fascisme à l'histoire.
Oui, ou d'en écrire une nouvelle page, bon choix.
C'est le risque.
Alors, l'Italie est quand même une démocratie moderne, avec des contre-pouvoirs. Est-ce qu'on peut imaginer une possibilité de voir quand même Giorgia Meloni instaurer un pouvoir autoritaire sans contrepartie, sans...
A priori, non, car comme tu l'évoquais, Giorgia Meloni est contrainte de faire avec des garde-fous. Déjà, au Parlement, Meloni n'a pas la majorité absolue. Outre Fratelli d'Italia, la coalition comprend la Ligue de Matteo Salvini, qui mise sur l'intérêt national avant tout, et le parti de centre-droit Forza Italia de Silvio Berlusconi. Déjà, encore lui, il est toujours ici présent. Et puis Berlusconi, lui, pense que l'avenir de l'Italie passe par Bruxelles. On verra que ce n'est pas forcément l'opinion de Meloni. Meloni va donc devoir réussir à gouverner avec une coalition aux intérêts parfois divergents. Le président de la République, Sergio Mattarella, est un autre garde-fou. C'est lui qui va certainement désigner Meloni présidente du Conseil. Mais il peut refuser de nommer un ministre proposé par Meloni. De plus, en Italie, un juge s'occupe de vérifier la constitutionnalité des lois, limitant ainsi les prérogatives du gouvernement. Mmh. Enfin, l'Italie est un pays où le débat public est vivant, le paysage médiatique y est actif et pluraliste. Il semble donc difficile pour un parti de s'arroger l'ensemble des pouvoirs. D'autant plus que Fratelli d'Italia est un parti qui est né et a grandi dans le contexte constitutionnel, sans jamais contester ses valeurs fondamentales. Il a toujours respecté le Parlement et la présidence de la République, jusqu'à présent en tout cas.
Oui, donc tu es en train de nous dire que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, mais qu'en même temps, c'est parce que la démocratie se porte bien que ce type de pouvoir peut, que ce type de parti peut arriver au pouvoir.
Voilà, c'est ça.
C'est le terreau qui est favorable. Et donc concrètement, est-ce qu'on peut imaginer que Giorgia Meloni... n'est pas particulièrement très proche de la sensibilité européenne.
Elle n'est pas très europhile, effectivement. Elle est même plutôt eurosceptique. Elle est davantage tournée vers une Europe qui respecte la souveraineté des États. Elle est proche des ultra-conservateurs suédois, polonais, tchèques et espagnols, qui sont très forts en ce moment dans leurs États respectifs. Mmh. Elle souhaite ainsi une Europe qui protège ses frontières, qui est anti-islam et anti-immigrés. Néanmoins, la sortie de l'Union européenne et l'abandon de l'euro ne figurent plus dans son programme. Mais elle souhaite une révision des traités pour recouvrer plus de souveraineté économique. Durant la campagne électorale, elle a promis de ne pas vouloir détruire l'Union européenne. C'est déjà ça.
Ah, c'est rassurant.
Et aussi parce qu'elle n'a pas le choix, il y a aussi de l'argent européen qui arrive en Italie et qui va bien l'aider.
Effectivement. Et au niveau de la politique internationale ?
Eh bien, contrairement à d'autres populistes, elle n'est pas russophile, elle est même plutôt atlantiste. Elle estime que l'Italie a besoin des États-Unis pour sa protection. Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, elle a très rapidement félicité Mario Draghi d'avoir condamné l'invasion russe et envoyé de l'aide aux Ukrainiens. Elle soutient même l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc finalement, avec Giorgia Meloni, on a une femme particulièrement conservatrice au pouvoir, voire même réactionnaire sur certaines questions, comme celle de l'IVG, mais une femme qui s'est engagée à respecter les règles du jeu démocratique et qui tente de créer une grande union des droites, libérales, traditionnelles et nationalistes, centrée sur le conservatisme. Voilà.
Donc affaire à suivre.
Affaire à suivre. Merci.
Poker menteur.
Galade. Bonsoir auditeurs, c'est Poker Menteur. Ce mois-ci, nous allons parler d'un sujet pas très connu, la communication non violente. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien écoutez, c'est parti de constats, on va en savoir plus bientôt, qui sont les suivants. C'est quand on communique, souvent notre façon de communiquer dérive vers des formes d'agressivité qu'on ne contrôle pas obligatoirement. Et donc il y a des personnes qui ont réfléchi là-dessus et qui ont mis au point une sorte de méthode de communication qu'on a appelée communication non violente. Attention, personnellement, je n'y connais rien. C'est pourquoi j'ai choisi d'inviter deux personnes qui sont tout à fait expertes dans le domaine. Donc bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Bonjour Emma.
Bonjour.
Donc, vous êtes nos invités. Si vous voulez vous présenter, je vous laisse vous présenter. Et on va découvrir grâce à vous en quoi consiste la communication non violente. Dites-nous.
Tu veux te présenter ?
Oui, bah moi je suis Emma, je suis prof au CSND, donc on est tous entre collègues là, et la communication non violente ça m'intéresse depuis longtemps, et je m'y suis d'abord intéressée quand j'ai eu des enfants, parce qu'en fait on communique aussi de manière violente avec les enfants,
ouais, autoritaire.
Et je suis entrée dans la communication non violente plutôt par, par des livres que j'ai lus pour mieux communiquer avec les enfants.
D'accord, ça a été ton axe et ta motivation au départ.
C'est ça.
C'est intéressant, ouais. Et Anne-Laure, c'était quoi ton axe à toi ?
Alors moi, Anne-Laure, pareil, effectivement, on est entre collègues, prof au CSND. Et moi, avant d'être prof, j'avais une autre vie.
Oui.
Donc j'étais...
Agent secret ? Non.
J'aurais bien aimé.
Bon,
j'étais coach pour des groupes.
Ah, d'accord.
En entreprise. Et le problème, c'est que l'entreprise est aussi un endroit où
bien
on a
sûr.
Besoin d'une façon de communiquer un peu plus soft. Et c'est comme ça que c'est devenu un de mes outils, en tout cas en entreprise.
D'accord, donc tu as acquis cet outil dans le cadre de ton travail de coach pour pouvoir l'utiliser professionnellement.
Exactement.
D'accord, très bien, très bien. Eh bien écoutez, on va vous écouter parce que personnellement, nous n'y connaissons rien. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous commencions par la présentation de la personne qui a inventé cette notion. C'est qui cette personne ?
Alors, cette personne, c'est un homme qui s'appelle Marshall Bertram Rosenberg. Donc en fait, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2015. Donc en fait, tous ses fans étaient déplorés, mais en fait, il est quand même décédé à 80 ans.
Bon, il a eu le temps de bâtir son œuvre.
Exactement. Donc en fait, il est né dans les années 1934 aux États-Unis. Et en fait, c'est une pleine époque de ségrégation raciale, etc.
D'accord.
Et pendant sa jeunesse... Au niveau de son école, il a constaté énormément de tensions, de conflits, de même en venir aux mains, etc. Et ça l'a tellement choqué qu'il a décidé finalement d'y consacrer un petit peu sa vie.
Carrément. D'accord.
Et donc, il est devenu en fait psychologue, clinicien. Mais il a été déjà formé par Carl Rogers.
Ah oui, d'accord.
Ça y est, il y a
ça
des petits,
chose,
il y a des petites choses qui
voilà. Oui, tout à fait.
Et donc
voilà.
Et donc ce qu'il a retiré de ce professeur, en fait, c'est le côté empathie.
Bien sûr.
Et l'empathie envers soi-même ou envers les autres.
D'accord.
Donc en fait, on verra après. Emma va bien nous l'expliquer que la première chose dans l'empathie, c'est de s'écouter.
Oui, bien sûr, bien sûr. On peut le définir rapidement, l'empathie, de façon simple ?
C'est une question piège.
Il faut dire, c'est une excellente question, je vous remercie de me la reposer.
Hein,
et d'ailleurs, Emma est très compétente pour y répondre. Emma, peux-tu nous définir l'empathie ?
Eh bien, oui, alors ça vient du grec pathos, qui veut dire la souffrance.
Trop
et
forte,
empathie,
bravo.
Et empathie, on va être du coup en souffrance avec l'autre. Enfin, on va écouter
d'accord.
la souffrance de l'autre.
D'accord, partager.
Et du coup, on va la partager.
D'accord, ok, très bien, super, belle explication. Alors, tu peux reprendre le contrôle.
Bah, merci beaucoup. Hein. J'aurais été incapable. On voit les spécialités de prof.
Ouais,
hein.
Voilà. Savoir collaborer.
Bien. Ensuite, il a été aussi très influencé par un économiste chilien qui s'appelle Max Neef.
Que je ne connais pas.
Que tu ne connais pas.
Non.
Et donc, cet homme, il est mort en 2019. Donc, il n'y a
d'accord,
pas si longtemps que ça. Et lui, son leitmotiv, c'était les besoins fondamentaux des humains.
D'accord, ok.
Et donc, Rosenberg, ça l'a aussi énormément interpellé, le fait de pouvoir exprimer ses besoins fondamentaux.
Ok.
Donc, c'est une deuxième facette, une deuxième inspiration par cet homme-là.
Ok, première inspiration, Carl Rogers. Deuxième inspiration, Monsieur Sniff, c'est ça ?
Oui,
comme
Max Sniff.
Ah, Sniff.
Max comme maximum et Sniff, voilà.
Temps,
hein, voilà. Non, mais je te remercie. Ok.
Très bien.
C'est bon ?
Continue.
Allez,
je suis là pour te perturber, mais tu dois continuer.
Je te remercie. Et donc, troisième inspiration, c'est ni plus ni moins que Gandhi.
Ah oui, effectivement.
Voilà. Et donc, pour lui, il voulait arriver à une communication de non-violence, où on pouvait exprimer les choses, mais d'une façon entendable, et une façon où on gardait le lien, on gardait le dialogue. Donc, Gandhi l'a énormément inspiré. D'ailleurs, la dernière édition de son livre... a été préfacé par le petit-fils de Gandhi parce que ils étaient effectivement en lien finalement. Et donc ce qu'il a retiré, c'est la philosophie. Alors il y a un mot, alors là je suis pas douée pour la prononciation, c'est ahimsa qui veut dire non-violence.
En quelle langue ?
Eh ben de chez eux, en indien.
Voilà. Ah d'accord.
d'accord. Voilà,
de Gandhi.
Tu vas pouvoir regarder là. D'accord. Donc, respect de la vie, non-violence, etc. Le fait de ne pas faire souffrir les autres, quels qu'ils soient. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé de prendre ce précepte, en fait, mais qu'il l'a gardé en américain. Et donc, c'est devenu non-violent communication.
D'accord.
Mais à la différence du français, quand on l'a traduit, on a séparé communication non-violente. Oui. En américain, ils ont laissé les deux mots accrochés.
D'accord.
Non-violent est accroché pour bien dire que c'est ce précepte, cette valeur qui vient en fait de la philosophie indienne.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ok.
Parfois, on le trouve précisément, même en français, non-violente, parfois on l'accroche avec le N majuscule et le V majuscule, mais accroché. Parfois, d'accord, on le trouve tout accroché comme ça pour justement...
Pour être conforme avec le choix américain
avec
original.
Le choix...
D'accord.
De l'auteur.
Florian Zenberg, donc, est américain. Ok, d'accord. Très bien. C'est à peu près dans quelles années qu'il produit au sens littéraire
alors,
du terme, son œuvre?
Alors, en tout cas, dans les années 60 et même en 1966, il a créé carrément un centre pour promulguer ça. Donc, le centre de la communication non violente, tout simplement.
Ok. Donc, ça commence dans ces années-là à se propager.
Oui. Et lui, au départ, en fait, il vise vraiment les écoles. Puisque c'est là aussi où lui, il a senti de la souffrance jeune, et ce qui a été le déclencheur pour lui, et aussi les institutions qui travaillent sur la ségrégation raciale.
Oui.
Donc, toutes ces institutions-là, il essaye de glisser aussi la communication non-violente à l'intérieur, au niveau des médiateurs, de ceux qui interviennent,
voilà,
pour fluidifier... Voilà.
Ceux qui sont dans des situations où ils ont à essayer de... maintenir un lien entre deux parties qui peuvent être très tendues, qui peuvent se rompre, qui peuvent partir en cacahuète, parce que bon, les gens qui travaillent sur la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 60, au secours,
voilà,
les pauvres.
Exactement.
Donc ils avaient bien besoin de ce genre d'outils.
Exactement.
D'accord, très bien. Et donc, M. Rosenberg, il commence à être connu, années 60, son message se propage hors des frontières?
Oui, alors hors des frontières, oui, mais alors chez nous, c'est arrivé un petit peu plus tard.
Mm-hmm.
Donc chez nous, il y a deux personnes, en fait, qui ont aidé à divulguer le message. Alors, je pense, je ne sais pas si vous les connaissez, vous allez me dire. Donc, l'avocat belge Thomas Osenburg, j'espère que j'ai...
Osenburg,
je te
d'accord.
remercie. Mm-hmm. Voilà, donc c'est lui qui a écrit le livre qu'on connaît pas mal, qui est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ».
Ouais, d'accord. Le titre, je connais le titre. Oui, le nom, je ne connaissais pas, mais ce
voilà.
titre est très connu, oui.
Voilà. Donc, en fait, lui, en fait, il œuvrait aussi pas mal pour les jeunes des rues.
Mm-hmm.
Et il s'est rendu compte qu'en fait, à la source de pas mal de problèmes de ces jeunes de rue, il y avait la communication. Le fait des non-dits ou des mal-dits ou d'être mal écouté, etc. Donc, tout tournait pas mal autour de la communication, le fait qu'il soit finalement dans cette situation extrême.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un outil qu'il a aussi mis en avant.
D'accord, d'accord. Donc, cet avocat belge, tu avais parlé de deux personnes?
Oui, il y en a un deuxième, en fait. C'est David Servan-Schreiber.
Ah oui.
Qui fait aussi dans son livre Guérir toute une partie sur la communication, exactement, toute une communication sur la communication non violente et sur le bien que potentiellement ça peut faire à la personne aussi malade.
D'accord, donc là on est plutôt dans les années 90. L'avocat, je ne sais pas, peut-être c'est avant,
oui,
je ne sais
et,
pas.
Non, mais tu as tout à fait raison. Donc en fait, par exemple, le livre de l'avocat belge est sorti en 2004.
D'accord, ok.
Et celui de Servan-Schreiber en 2003. Donc, on
ah,
est au
2003,
tout début
vois,
des années 2000.
Avant. D'accord, début voilà. des années 2000. Donc, c'est assez récent, en fait, la pénétration
pour la
France,
oui. Assez
d'accord.
récent. Alors,
très
après,
bien.
Je ne suis pas une pro pour les autres pays.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Voilà, mais pour nous, oui.
Ok. Il y a un institut en France qui régit ça, une organisation quelconque, non?
Alors, en tout cas, je sais que pour être formé, il faut vraiment être estampillé. Hein,
voilà.
On ne se proclame pas auto-expert en communication non violente. Donc, effectivement, oui, il y a une structure qui valide, en fait, la formation, etc.
Très bien.
Après, je n'en connais pas le nom, mais à coup pas.
Alors, très moi, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a Spiralis. Qui a, alors, je ne sais pas si c'est français, par contre, mais, ou si c'est, mais c'est francophone, en tout cas.
Mm-hmm.
Et c'est un institut qui propose de la formation à la communication non violente.
Très bien, très bien. Écoutez, on a déjà une première approche sur les origines, c'est déjà un point. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Mathieu, comme d'habitude, c'est la surprise, on présentera ça à la fin. C'est parti.
Dans mon pays de cocaïne, y'a des petits jeunes qui ont retrouvé la foi. Y'a leurs parents qui quittent, qui sont fiers à pleurer de joie. Y'a des rêves à tous les coins de rue, si jamais t'es perdu, n'oublie pas qu'ici rien n'est hyper dur. Dans mon pays de cocaïne, j'ai croisé Marine, lâché des voiles à la radim avec mon pote Hakim. On se mélange, on se découvre, on partage, on s'écoute. On sait qu'on est tous ensemble à en découdre. Dans ce pays, on ne te juge pas pour ce que tu es. Y'a bien que les préjugés ici qui ont été tués. Tu peux être toi qui tu veux, tu peux aimer un homme, une femme, qu'importe si t'es heureux. Chez moi. Salut, salut, si c'est comme chez toi. Salut, salut, sois le bienvenu chez moi. Salut, salut, si c'est comme chez toi. Dans mon pays de cocagne, même l'amour a survécu. On se rencontre comme avant, nos histoires ont du vécu. Y'a des fleurs dans les mains, y'a des bagues sur les doigts. On répare quand ça craint, on sait ce qu'on lui doit. Dans mon pays de cocagne, rien n'est parfait. On laisse plein de défauts pour en apprécier ses qualités. On n'écrase personne, on ne cherche pas profit. On se tend juste la main, on serre les coudes et on profite. Dans ce pays, on ne te juge pas pour ce que tu es. Y'a bien que les préjugés ici qui ont été tués. Tu peux être toi qui tu veux, tu peux aimer un homme, une femme, qu'importe si t'es heureux. Salut, salut, sois le bienvenu chez moi. Salut, salut, si c'est comme chez toi. Chez moi. Salut, salut, si c'est comme chez toi. Et si ce n'était pas un rêve, et si c'était vrai? Et si mon pays de cocaïne devenait réalité? Et si on façonnait le monde comme une évidence? Dis-moi, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de changer la France? Et si ce n'était pas un rêve, et si c'était vrai? Et si mon pays de cocaïne devenait réalité? Et si on façonnait le monde comme une évidence? Dis-moi, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de changer la France? Et on tendrait la main à ceux qui en ont vraiment besoin. On comprendrait que le respect dure si on en prend soin. Y aurait des rêves à tous les coins de rue, on serait jamais perdu. Car ici rien ne serait hyper dur. Chez moi. Salut, salut, si c'est comme chez toi. Salut, salut, sois le bienvenu chez moi. Salut, salut, si c'est comme chez toi. Et si c'était pas un rêve, et si c'était vrai? Et si mon pays de cocaïne devenait réalité? Et si on façonnait le monde comme une évidence? Dis-moi, est-ce qu'on ferait pas mieux de changer la France? Et si c'était pas un rêve, et si c'était vrai? Et si mon pays de cocaïne devenait réalité? Et si on façonnait le monde comme une évidence? Dis-moi, est-ce qu'on ferait pas mieux de changer la France?
Vous écoutez Poker Menteur 100.9 sur Calade, bien sûr, et nous venons d'écouter... Mais qu'est-ce que nous venons d'écouter, Emma? Alors, explique-nous ça.
Nous venons d'écouter une chanson du groupe Léonie, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Et cette chanson, elle s'appelle « Salut, salut ». Et en fait, elle parle de la tolérance, que je trouvais du coup que ça correspondait bien au thème de notre émission.
Très bien. Emma et Anne-Laure sont nos invités pour cette émission consacrée à la communication non violente. Nous venons de voir dans une première partie comment M. Rosenberg, le fondateur de ce mouvement, a trouvé un peu sa voie de la communication non violente. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail de la mécanique. Nous allons voir un petit peu comment ça fonctionne, quels sont ses grands principes. Et pour cela, Emma va prendre la parole. Nous t'écoutons.
Tout à fait. Alors, la CNV, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert d'abord pour soi-même, en premier lieu, pour être plus à l'écoute de ses émotions. Et quand on fait ça, en fait, on va clarifier ce qui se passe en soi, et ça amène à ce que Marshall Rosenberg appelle l'auto-empathie. Mmh. Et puis, ça sert aussi pour autrui, pour communiquer de manière à ce que l'autre, en fait, comprenne et accepte ce qu'on lui dit. Et c'est l'idée de parler vrai.
D'accord.
Et du coup, dans le dialogue, en fait, ça sert... L'idée, c'est de permettre d'avoir un vrai dialogue, un dialogue sincère, où on ne se sent pas jugé, et où justement, on est, comme tu le disais, Anne-Laure, dans l'empathie.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence par l'écoute de soi-même, donc faire l'effort de se comprendre soi-même, de comprendre ses propres réactions, parce que si on est nous-mêmes, je dirais, un peu prisonnier de réactions un peu abruptes, émotionnelles, qu'on maîtrise pas vraiment et qu'on ne comprend pas vraiment, le travail il peut pas commencer en quelque sorte.
Tu vas voir ce que dans quelques instants, je vais présenter un exemple et ça correspond exactement à ce que tu dis.
D'accord.
Je voudrais juste avant apporter une petite nuance. Il arrive que la communication non violente passe pour la manipulation. Mm-hmm. Et en fait, c'est vraiment pas le cas quand on la pratique selon le processus proposé par Marshall Rosenberg, processus que je vais expliquer maintenant.
Ouais. C'est vrai que dès qu'on est sur des formes de communication un peu maîtrisées selon certaines méthodes, tout de suite l'accusation de manipulation revient, enfin vient immédiatement, et faut relativiser ça, quoi, parce que manipulation, s'il y a une visée d'exploitation de la personne, on peut l'entendre, mais s'il n'y a pas ça, ce terme il est excessif.
Ouais, c'est précisément l'inverse qui se passe. Alors justement, comment ça fonctionne? En fait, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'observation, c'est-à-dire quand on est dans une situation de conflit, on va d'abord décrire la situation en termes observables, en fait.
D'accord.
De manière objective.
Donc, première intervention, on décrit la situation, on dit ah, il se passe quelque chose, etc.
Je vais donner un exemple après, tu verras.
De façon factuelle.
C'est ça, de façon factuelle. Ensuite, deuxième étape, on va parler de ses sentiments. On va exprimer les sentiments qu'on a ressentis dans cette situation. Troisième étape, le besoin. On va clarifier, en fait, quels sont les besoins qui sont derrière, en fait, qui sont à l'origine de la source de ce sentiment, de ce ressenti. Et dernière étape, on va formuler une demande à l'autre, une demande en respectant les critères suivants, qu'elle soit réalisable, qu'elle soit concrète, qu'elle soit la plus précise possible, et qu'elle soit formulée de façon positive.
D'accord. Donc les faits, ensuite ce que je ressens suite à cette situation, quel besoin j'ai derrière ce ressenti, et ensuite une proposition, c'est ça ?
Une demande qu'on va faire à l'autre.
Une demande, ok.
Alors, je vais donner un exemple. Donc je pose la situation, et après je vais dire la réaction classique, c'est-à-dire émotionnelle, voilà. Et puis ensuite, retour en arrière, et
avec
comment on pourrait réagir
la
avec l'application de la méthode.
Ouais.
Donc, je rentre à la maison, je suis avec mes enfants, mon fils aîné retire ses chaussettes et les laisse traîner en plein milieu du salon.
Classique. Sale gosse, c'est insupportable.
Hein, voilà. Réaction classique, première réaction.
Mais c'est pas possible!
C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire.
C'est
pas possible! Tu laisses traîner tes chaussettes partout, t'en as rien à faire de la maison, c'est le bazar partout et tu penses qu'à toi, là, tu t'en fiches des autres.
Exactement.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Mon fils derrière, il va s'énerver. Il va dire j'en ai marre des règles de cette maison. Moi, je rentre là, déjà, je me fais engueuler.
C'est le bagne, j'en ai marre.
Je peux vraiment rien faire, c'est pas juste. Du coup, le ton monte.
Ouais.
On est chacun sur nos positions. Et en fait, on s'écoute pas vraiment. On s'écoute pas vraiment et on n'écoute pas le besoin de l'autre. Alors, ce type de communication, Marshall Rosenberg, il appelle ça le langage du chacal. Et quand on regarde des vidéos de Marshall Rosenberg, il a des petites marionnettes.
Ouais.
Et il a un chacal.
Ouais.
Alors, il a l'autre aussi, je vous dirai après comment il s'appelle. Donc, le chacal, c'est vraiment celui qui bave ses émotions, qui crache tout ce qu'il a, sans filtre, sans réfléchir, et qui ne s'occupe pas de savoir si ça fait mal à l'autre. Ou, voilà.
D'accord.
Et Marshall Rosenberg, il dit que c'est vraiment un langage qui est basé sur des jugements. En fait, c'est qui a tort, qui a raison,
bien
qui
sûr.
Est le bon, qui est le mauvais.
Bien sûr. Oui, c'est un jugement, de toute façon. Tu me casses les pieds, tu n'as pas rangé tes chaussettes.
En fait, ce qu'il dit, c'est que ce langage, il nie la responsabilité de nos actions. On va toujours rejeter la faute sur l'autre.
D'accord.
Et du coup, en fait, ce qu'il dit, il s'appuie sur les propos en fait, de Walter Wing, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Power That Be ». Je n'ai pas la date, j'avoue. Et dans ce livre, en fait, ce que dit Walter Wing, c'est que quand on parle comme ça, c'est qu'on part du principe que l'humain est mauvais.
D'accord.
Et que du coup, on va chercher, on va chercher à montrer que c'est l'autre qui est le mauvais et que nous, on est le bon.
Oui, c'est logique.
Et résultat des courses, c'est créateur de violence.
Bien sûr.
Du coup, comment on fait pour faire autrement, et pour parler
c'est ça,
autrement.
La grande question.
Eh bien, je vais reprendre mon même exemple. J'arrive, mon fils a balancé ses chaussettes au milieu du salon et j'applique la CNV. Et là, je vais donc sortir ma deuxième marionnette et je vais utiliser le langage de la girafe, c'est-à-dire le langage du cœur.
D'accord.
Le langage du cœur pour Marshall Rosenberg. Et donc, je vais pouvoir dire, par exemple, alors, je vous dis les étapes à chaque fois, description objective. Je vois que tes chaussettes sont par terre, là, au milieu du salon. Et ensuite, je vais dire mon sentiment. Et franchement, là, tu vois, ça m'énerve de voir ça. En fait, ça me met en colère. Après, je vais dire mon besoin. En fait, à la maison, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin d'ordre. J'ai besoin que le salon soit un peu rangé, qu'il n'y ait pas des choses qui traînent partout. Et puis, du coup, je vais formuler une demande. Du coup, tu serais d'accord qu'on trouve une solution pour éviter qu'il y ait des chaussettes là qui traînent en plein milieu du salon. Et du coup, là, le dialogue, il est ouvert parce que mon fils, il peut entendre. Je ne l'ai pas accusé,
oui,
je ne l'ai
pas
jugé.
Clairement.
Et du coup, je peux lui demander, toi, en fait, c'est quoi ton besoin quand tu quittes tes chaussettes là et que tu les laisses traîner en plein milieu? Du coup, il peut me répondre, bah, déjà, moi, quand j'arrive, j'ai chaud aux pieds, j'ai envie de me rafraîchir. Et puis, à l'école, il y a plein de règles. Et du coup, quand j'arrive à la maison, moi, j'ai envie de me mettre à l'aise tout de suite et d'être bien. J'ai envie de me détendre. Et puis, j'aime bien être pieds nus. Donc, voilà, c'est pour ça que je laisse traîner mes chaussettes. Du coup, ben, je pourrais lui proposer, bah, peut-être ce qu'on pourrait faire, si tu veux, c'est qu'on pourrait mettre une petite panière près du canapé où tu déposes tes chaussettes. Comme ça, tu n'as pas besoin de monter les mettre au sale. Et puis, tu peux te détendre et te mettre à l'aise tout de suite. Puis moi, bah, ça respecte mon besoin qu'il n'y ait pas des choses qui traînent dans le salon. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien, je pourrais aussi lui dire, bah, tu serais d'accord de déposer tes chaussettes sur la première marche de l'escalier, là. Comme ça, bah, elles ne sont pas au milieu. Puis quand tu monteras à l'étage, tu pourras les mettre dans le panier de linge sale. Ou alors, encore, je peux lui faire une autre proposition. Je peux lui dire, bah, tu aurais une idée, toi, pour que ton besoin à toi, il soit satisfait de te détendre et que moi, mon besoin d'ordre dans la maison, il soit aussi satisfait. Et peut-être qu'il aura une bonne idée. Souvent, les enfants, contrairement à ce qu'on croit, ils ont des bonnes idées.
Ouais, bah, si je suis un enfant, je vais te proposer une idée. Ok, tu vas mettre un panier, un petit panier donc, à côté du salon et je lance mes chaussettes comme au basket. Et le but, c'est que j'arrive à les rentrer dedans et je recommence tant que je ne suis pas arrivé. Ce serait rigolo.
Bah ouais, carrément.
Les gamins se prendraient au jeu.
Mais tout à fait.
Et les chaussettes seraient dans le panier.
Voilà. Et alors, résultat des courses, ben, vous voyez que là, dans ce discours-là, chacun a pu exprimer ses sentiments, ses besoins. On s'est écouté. On n'a pas cherché à dire qui était le bon ou qui était le mauvais. Et au bout du bout, ben, les besoins de chacun sont satisfaits.
Et on n'est pas parti dans un rapport de force basé sur la contrainte et la violence.
Alors, précisément, l'autre chose que j'aurais pu dire à mon fils, c'est « Ouais, bah écoute, tu sais quoi? C'est moi l'adulte ici, hein, c'est moi qui commande. Donc maintenant, tu ranges tes chaussettes, tu vas les balancer au panier de linge sale et puis c'est tout. »
J'ai fixé les règles, t'écoutes jamais,
voilà,
etc.
C'est ça.
On peut en revenir à cette solution de facilité.
Sauf que cette solution, alors, elle semble plus facile, mais en fait, elle a des conséquences. Parce que d'abord, elle abîme notre relation à mon fils et moi. Et puis, elle lui apprend aussi, et ça c'est plus grave, à nier ses propres besoins ou à se dire que ses besoins à lui, ils passent avant les miens. Ouais. Et que du coup, finalement, il ne vaut pas grand-chose, qu'il n'est pas si important que ça. Et donc, ça, c'est plus grave comme conséquence.
D'accord, d'accord.
Et puis,
super, on comprend bien donc, l'impact que ça peut générer, l'impact positif
et bah, c'est ça.
De cette
et
méthode.
Puis, en fait, il y a encore une troisième chose, c'est que mon fils, je peux lui dire, bah, c'est moi qui commande, voilà.
Ouais,
mais si je communique avec un adulte, avec un collègue de boulot, par exemple, qui sont sympas, heureusement, mais bon, il y a d'autres gens qui ont des collègues pas sympas, et ben, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire, bah, c'est moi qui impose ma règle.
Ah bah clairement, clairement.
Donc,
oui, oui.
Ça pose des soucis.
Il y a des situations, on n'est pas en situation de hiérarchique supérieure, donc là, on ne peut pas s'y amuser, quoi.
Tout à fait.
D'accord.
Et du coup, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pour arriver à faire ça, eh ben, il faut d'abord se connecter à soi-même et se connecter à ses besoins.
Ouais,
ça oblige à faire une pause et à prendre du recul et à vraiment se poser la question de ce qu'on ressent, de ce qu'il y a derrière notre réaction spontanée qui va être la colère. Et du coup, en fait, c'est bien pour soi aussi de faire ça.
Il faut aller au-delà, en fait, de notre réaction émotionnelle.
Exactement.
Qui, en fait, elle nous contrôle, elle nous tient, quoi.
Complètement.
Et arriver à la mettre un peu à distance et dire, OK, je suis en colère, mais au fait, pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a cette règle qui, pour moi, est importante, qui n'est pas respectée, etc., etc.
Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, on va pouvoir vivre de manière plus harmonieuse, être plus en harmonie avec les autres, vivre vraiment du respect entre les personnes. Le respect, ça va être un respect qui vient du cœur et pas juste un respect de convention ou de politesse. Donc, on est dans une relation qui est beaucoup plus authentique.
Tout à fait.
Et Marshall Rosenberg, il dit qu'en fait, souvent, nous-mêmes, soi-même, hein, pas que avec les autres, on se respecte pas toujours, on se considère pas toujours avec du respect. Par exemple, il évoque les injonctions qu'on se fait très souvent à soi-même. « Ah, il faut que je fasse ça. Ah, je dois faire ça.
»
Et il dit, bah, en fait, à chaque fois qu'on attaque une phrase de cette façon, il faut s'arrêter et se poser la question. « Attends, est-ce que là, ce que je vais faire, c'est vraiment en raccord avec vraiment ce que j'ai envie, avec mes valeurs ?» Et du coup, sortir du pilote automatique et se dire, finalement, est-ce que je veux vraiment faire ça? Et si je veux pas le faire, peut-être faire autrement ou abandonner ce que
je m'apprête à faire. Ça veut dire questionner, prendre le temps de prendre du recul et questionner nos drivers qu'on se fixe en quelque sorte. Hein.
Exactement.
Notre Jiminy Cricket, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Ouais.
Et du coup, il invite plutôt à formuler quand on va accomplir une action de la façon suivante, c'est-à-dire je choisis de. Et en fait, quand on fait ça, mais on se sent tellement mieux.
Ah oui?
Ah mais ouais.
D'accord.
Vraiment.
D'accord. J'ai choisi deux parce que ça implique donc qu'on a pris le temps de prendre du recul sur le pourquoi je veux faire ça.
Tout à fait.
Et de se connecter à son besoin, son analyse de la situation, sa motivation et que ce soit un vrai choix.
Exactement.
D'accord, super. Super.
Du coup, j'avais un petit peu détaillé les quatre étapes pour préciser les choses.
Oui, très bonne idée. Vas-y, Emma, détaille les quatre étapes, nous t'écoutons.
Alors, la première étape, c'était l'observation.
Et en fait, en général, quand on décrit une situation, on a tendance à exprimer plusieurs choses.
Ouais.
On va exprimer les observations objectives, donc comme un petit peu ça, ça pourrait être filmé par une caméra, hein, ce ouais. qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Mais on va aussi évoquer des jugements ou des évaluations. C'est-à-dire, par exemple, penser en termes de bien ou de mal.
On va épicer ça avec du jugement, en fait.
Exactement. Et puis, souvent aussi, on a tendance à faire des interprétations, c'est-à-dire à tirer des conclusions de ce qui se passe.
Totalement.
En se basant uniquement sur nos suppositions.
Interprétation hâtive et hasardeuse, souvent.
Tout à fait. Et bien, dans le processus de la CNV, on va essayer de ne garder que les observations objectives.
Voilà, on reste sur l'aspect factuel.
Exactement. Parce que, en fait, le problème du jugement, c'est que si l'autre se sent jugé, il risque de se braquer.
Totalement.
Et du coup, de ne plus écouter ce qu'on lui dit. Et le problème des interprétations, c'est qu'on peut se tromper, puisqu'on n'est pas dans la tête de l'autre et que, du coup, on ne peut pas
Totalement.
Savoir quelles sont ses intentions réelles.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Et du coup, que, si vraiment on veut exprimer un jugement, il faut signifier. Qu'on, par exemple, par
le dire clairement.
Dire clairement, j'ai
et
l'impression.
Et se justifier,
que...
éventuellement.
Ouais. Bah, en tout cas, dire que c'est un jugement.
Alors j'ai l'impression que. Commencez par
j'ai l'impression que. Ça veut dire que je décris pas la situation
voilà.
objective.
Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc premier point, être très très factuel.
Tout à fait.
D'accord.
Alors sur les sentiments, eh bien en fait, ça demande de développer un petit peu un vocabulaire des émotions parce qu'on n'a pas forcément appris à exprimer nos émotions.
C'est vrai.
Et du coup, ça peut être intéressant d'avoir un support en fait hein, catégorisé pour ben, enrichir son vocabulaire sur les émotions. Il faut savoir aussi que parfois, on peut exprimer un reproche caché à la place d'une émotion authentique. Je vais vous donner un exemple. Si je dis à quelqu'un que je me sens jugée parce qu'il a dit que mon pull était moche, en fait, c'est un reproche caché. Parce que ce que je ressens vraiment, moi, c'est de la tristesse.
D'accord, d'accord. Ok. Donc, il y a derrière, derrière l'expression d'une émotion, il y a une autre émotion qui se cache derrière et qui est la réelle émotion.
C'est ça, exactement.
D'accord.
Enfin, on peut
Très bien.
Faire des reproches cachés parfois quand on veut exprimer
notre émotion
une émotion
qui est un reproche. Okay.
Exactement. Et du coup, ces sentiments, on peut les catégoriser. Et il y a un livre d'une bande dessinée d'Armella qui s'appelle Enquête sur les émotions. Et à la fin du tome 1, elle propose 5 catégories.
D'accord.
La sérénité, la peur, la colère, le plaisir et la tristesse.
Ouais.
Et dans ces 5 catégories, eh ben, elle donne plein de mots pour exprimer les choses. Et puis, c'est bien fait. Enfin, visuellement, elle met en relation tout ce qui est proche entre justement ces 5 catégories. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a plusieurs dizaines de mots dans chaque catégorie pour exprimer ce qu'on ressent.
Hey, ça me fait penser, tu sais, au film de Walt Disney, là, ou de Pixar, plutôt.
Oui,
sur les émotions.
Ah oui, tout à fait.
Vice-versa.
Exactement.
Ouais.
Qui a été vraiment très, très, très loué par la précision un peu de, derrière le dessin animé, la précision de l'analyse un peu du fonctionnement du cerveau humain, en quelque sorte.
C'est une vraie philosophie, un vrai apprentissage de pouvoir exprimer bonne émotion.
Tout à fait.
Et les êtres humains, enfin nous en général, on a du mal, hein, je parle pour moi et je pense pas être le seul, on a du mal à exprimer ses émotions. Une sorte de barrière qui nous retient. Et c'est une barrière qui est liée sans doute à, je sais pas, il y a des aspects psychologiques et peut-être des aspects aussi sociétaux, de conventions sociales, ça se fait pas, etc. C'est tout un mélange, mais c'est souvent compliqué hein, de faire l'effort de lâcher l'expression des émotions qu'on a.
Parce que bah, ça peut être aussi, déjà, parce qu'on n'a pas les mots.
En plus, on peut aussi ne pas avoir les mots.
Ça peut être aussi parce qu'on a peur d'être jugé, et parce que, comme tu viens de le dire, c'est vraiment contraire aux conditionnements sociaux, parfois même familiaux, et là c'est encore pire parce que c'est ancré depuis longtemps, qui consiste à apprendre à cacher nos émotions, parce que dire qu'on est triste, c'est être faible, c'est vraiment des idées reçues qu'il faut déconstruire.
Oui, tout à fait.
Pouvoir, alors là, moi, j'avoue, je triche un peu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand je dois exprimer un sentiment, comme des fois j'ai du mal à l'exprimer, parce que franchement, je ne sais pas lequel se cache derrière, je passe par l'expression du corporel. Et je dis, bah là, tu vois, là, j'ai une boule au ventre.
Oui, ok, d'accord. Tu signales la manifestation corporelle.
Exactement.
Et bon, ça fait sens aussi, généralement, pour l'interlocuteur qui comprend bien ce qu'il y a derrière. Ok, d'accord. Donc, petit conseil, si c'est difficile pour certains, passez par l'expression de l'aspect corporel de cette émotion. D'accord.
Alors, sur les besoins, c'était notre troisième étape. Marshall Rosenberg dit que ce sont les manifestations de la vie. Et du coup, pour trouver ces besoins, il propose de se demander qu'est-ce qui est vivant en nous et qu'est-ce qui pourrait nous rendre la vie plus belle. En fait, si je prends la description d'un besoin selon la CNV, il y a plusieurs critères. C'est quelque chose d'universel,
oui,
qui est commun à tous les êtres humains, qui est détaché d'un moment en particulier, d'un lieu, d'un objet ou d'une action.
D'accord. Donc, en fait, il ne faut pas tomber dans le piège de exprimer une sorte de besoin qui est lié directement à la situation, du genre « j'ai besoin de ne pas voir tes chaussettes quand tu rentres ».
Oui, exactement. Voilà.
Il faut chercher ce qu'il y a derrière comme besoin réel et universel.
Tout à fait.
Tu as des exemples de, oui, de besoins de ce universel, entre guillemets ?
Justement, alors, il y a plein de manières de classifier les besoins. Moi, je suis allée sur le site de Spiralis, donc le fameux centre de formation à la CNV dont je parlais tout à l'heure,
ouais,
qui propose donc 10 catégories. Je vais donner deux exemples à chaque fois, mais en fait, il y en a une bonne 10-15 à chaque fois.
Hein. D'accord.
Donc, premier besoin, le besoin de subsistance. Mmh. Manger, dormir,
oui,
se reposer. Le deuxième, besoin d'affection, besoin de tendresse, de réconfort. Ouais.
Okay.
Troisième, besoin au niveau mental, besoin d'apprentissage, besoin de compréhension.
Mmh.
Ensuite, également au niveau de l'autonomie, besoin de faire des choix, d'avoir de la liberté.
D'accord.
On a aussi les besoins qui concernent l'interdépendance, donc l'amour, l'écoute,
ouais,
etc. Besoin de célébration également, donc là-dedans on a tout ce qui est humour, plaisir.
Ok, ouais, d'accord.
Dans l'affirmation de soi également, on a des besoins comme le besoin de créativité, mm-hmm, besoin de réalisation.
Ouais.
Il y a une catégorie qui s'appelle le deuil, c'est le besoin de détachement par exemple, ou le besoin d'acceptation.
Ok, d'accepter... de passer malgré tout au-delà d'une épreuve douloureuse,
voilà,
après une période inévitable de deuil, mais d'aller
ou
de l'avant ensuite.
Se sentir accepté aussi, ça peut en faire partie.
Ouais.
Ensuite, le besoin d'intégrité, donc le respect, l'authenticité.
D'accord.
Et puis, le besoin de spiritualité, qui n'est pas forcément religieux. Ça peut être la beauté ou l'ordre, mm-hmm, par exemple.
Mm-hmm. D'accord.
Donc, si je t'écoute bien, les chaussettes, ça pourrait être spirituel.
Eh ben,
j'ai
oui,
besoin d'ordre
en
dans
fait,
la maison.
Mon besoin d'ordre, c'est dans d'accord, la catégorie d'accord, spiritualité.
Mais c'est vrai qu'on est dans des notions extrêmement communes, enfin universelles à tous les êtres humains. Donc, on retrouve bien
tout
cet aspect universel derrière, finalement, et sur des choses très concrètes qu'on, tout de suite qui nous font tilt. Hein, on comprend à chaque fois que tu l'énonces, on dit « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, effectivement. » Très bien.
Et puis, ben, la quatrième étape, la demande. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition.
Mmh.
Si c'est possible, c'est bien que l'action demandée soit faisable dans l'instant.
Oui.
Et puis surtout, le fait que la demande soit accompagnée d'une formulation des besoins de celui qui parle, mais aussi de la personne qui est en face, ça la rend négociable, cette demande.
Oui, oui. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, voilà, que la demande, elle doit intégrer le besoin de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir, bien sûr, dans le processus, écouter. Ce qui correspond aux besoins de l'autre à travers ce qu'on lui reproche.
Exactement.
Mmh.
Alors, quelques petites lectures pour aller plus loin.
Ouais.
J'en cite seulement quelques-uns. Alors, il y a Thomas d'Ensembourg dont tu as parlé, Anne-Laure. Il y a aussi Jacques Salomé,
oui,
qui est très
connu. Le fameux
Jacques
Salomé, oui, tout à fait.
Qui aussi part du constat qu'on communique mal. Alors, mmh, lui, c'est le système SAP. Hein, il a un autre système de classement, mais on est dans la même idée.
La philosophie
est
la même.
C'est ça, la philosophie est la même. Mmh. Lui, il se base beaucoup dans l'échange sur la visualisation, la symbolisation.
D'accord.
Mais on est quand même sur des idées qui recoupent avec tout ce qui est dit par Marshall Rosenberg.
Mmh.
Et puis, si on s'intéresse à la communication non violente, plus précisément avec les enfants,
oui,
donc moi j'ai deux grands maîtres, ce mm-hmm, sont des maîtresses en l'occurrence,
ouais,
Isabelle Filioza,
qui est, très
qui est française,
France, oui,
qui est très connue, qui intervient beaucoup à la radio,
qui est psychologue, donc,
qui fait,
psychothérapeute,
fait,
je ne sais pas.
Je ne sais plus, mais elle est psychologue, je crois.
D'accord.
L'un de ses ouvrages les plus connus, c'est Au cœur des émotions de l'enfant.
Mm-hmm.
Et puis, on a aussi, chez les Américains, Adèle Farber et Hélène Maslisch.
Mmh.
Je crois qu'elles sont américaines. J'ai un petit doute, là, maintenant, en le disant. Leur livre, moi, c'est vraiment ma Bible. C'est « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Il y a aussi une
d'accord,
déclinaison pour les ados.
Double...
Et là, vraiment, c'est hyper visuel. Il y a ce qu'elles disent, en fait, est accompagné de petites planches de bande dessinée qui récapitulent tout. Et elles donnent vraiment des outils. Elles appellent ça des habiletés,
mmh,
pour... arriver à mieux communiquer avec les enfants.
D'accord, d'accord. Donc un livre très pratique et très utile pour les mamans. Et les papas. Ah,
tout à fait.
J'ai failli faire.
Et les ados. Et les ados pour qu'ils se fassent écouter aussi.
C'est vrai, tu le conseillerais à lire aux ados?
Bah en fait, moi, c'est ce que j'ai fait avec
la version ado.
D'accord.
Voilà, il y a une version ado, effectivement.
Ah oui, une version spécifiquement rédigée pour les ados.
On a échangé avec eux au moment un peu crucial, un peu tendu.
D'accord.
Donc oui, ça a été très riche.
Ah oui,
en
c'est
fait.
Une idée intéressante alors. Ok, puis ça les force à lire.
Il s'appelle Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent.
D'accord, ok, super. Très bien. On mettra toutes ces références avec des liens dans
et
le podcast.
Il m'en manque une. Donc notre cher Rosenberg, qui lui aussi est l'initiateur, donc a écrit un livre de référence qui a été donc déjà réédité plusieurs fois. Et donc le titre, c'est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ».
D'accord. D'accord, ouais, intéressant, ouais, ok. Le point de départ, je dirais, de ce mouvement de la communication
exactement.
Non violente, donc cet ouvrage.
Exactement.
Très bien. Si vous le voulez bien, nous allons faire une deuxième pause musicale. C'est encore la surprise. Mathieu, c'est à toi.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. L'émission de ce mois est consacrée à la communication non violente avec nos deux invités expertes, entre guillemets, avec un grand H, on va dire, Emma et Anne-Laure. Nous avons découvert grâce à vous, donc, ah oui, excusez-moi, nous venons d'entendre Muse, Feeling Good, quand même, Muse, respect. Nous avons découvert grâce à vous donc, qui est à l'origine de la communication non violente, donc M. Rosenberg. Et nous avons découvert un petit peu les principes de façon très très détaillée. Et ça devient beaucoup plus clair maintenant d'une bonne utilisation de la communication non violente. Effectivement, c'est tout à fait passionnant. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de découvrir un projet scolaire que vous menez, donc dans le cadre du, de votre activité professionnelle, le lycée, de CSND à Villefranche-sur-Saône. Vous menez un projet autour de la communication non violente. On va vous écouter, expliquez-nous ça.
Alors en fait, le projet il est né il y a 2 ans à peu près par un autre collègue, donc Hervé Bruno, qui est intervenu au niveau des délégués du lycée, et puis pour leur demander un petit peu ce dont ils avaient besoin.
D'accord.
Et ce qui est sorti, en fait, c'est que leur problème majeur, c'était la gestion de conflits entre élèves.
Bien sûr.
Et avec ça, en fait, ils ont finalement décidé de créer une vidéo pour expliquer comment sortir de conflits compliqués, etc.
D'accord.
Mais malheureusement, entre-temps, on a eu une petite période Covid-esque qui a un petit peu planté le truc. Et donc, le projet est revenu en fait, sur le tapis l'année dernière. Donc, ce n'était pas forcément avec les mêmes élèves. On en
a eu
qu'un seul en fait, qui a fait le relais.
Les promos passent.
C'est ça, les promos passent. Et donc, finalement, le projet de refaire cette vidéo a été... repris par un autre groupe d'élèves et avec des professeurs, dont nous deux et dont d'autres collègues. Voilà comment, en tout cas, ça a redémarré à nouveau, mais pas forcément avec les délégués cette fois-ci. C'était avec une demande de volontaires au niveau de l'ensemble du lycée au démarrage.
D'accord, donc élargi à tous les lycées, lycéens éventuellement intéressés.
Exactement.
Ok, mais vous avez commencé cette année scolaire en septembre ou vous avez commencé précédemment l'an dernier ?
En fait, le court-métrage a été tourné l'an dernier.
Ah d'accord,
c'est-à-dire que tout le projet s'est déroulé l'an dernier. Oui. Là maintenant, on est dans la diffusion.
Ah ok, donc ça a été fait l'an dernier et vous avez bel et bien fait un court-métrage en vidéo.
Okay. Oui, tout à fait.
Alors pour ça, il y a eu plusieurs étapes. Donc la première étape qui a énormément plu aux élèves, c'est qu'on avait fait venir une experte de CNV, donc qui est une personne extérieure au lycée, et qui a proposé en fait 2 temps d'animation. Mais alors ce qui était très très bien, c'est que c'était vraiment expérientiel. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout théorique. Elle leur faisait vraiment en fait, très concrètement par des jeux, par des ateliers, ce que c'était finalement une meilleure communication, comment exprimer ses besoins, comment ressentir ses sentiments, etc. etc. Donc toutes les étapes de la communication non violente dont tu as parlé, Emma, elles étaient bien finalement vécues par les élèves.
Vécues par les
expérimentées.
Élèves. Alors cette dame, elle s'appelle Jeanne Ducarrois. Donc elle est coach aussi. Et en fait, au départ, on avait donc prévu 2 créneaux de 2 heures. Mais on a eu tellement d'élèves qui se sont manifestés, à savoir une quarantaine quand même, que finalement, en fait, c'est pas tous les élèves qui ont eu 2 créneaux de 2 heures. On a coupé en 2. Et donc, il y a eu un groupe de 20 qui a eu 2 heures et l'autre groupe qui a eu 2 heures. Donc,
d'accord.
Beaucoup de succès sur cette intervention.
Ok. Et donc, la vidéo, elle a été filmée à partir de ces deux séances.
Non, attends. Tu vas trop vite, là. Deuxième étape, le scénario.
Ah,
donc
d'accord.
Là, on a fait appel à des élèves volontaires parmi ceux qui avaient été formés. Alors, on n'a eu que 3 volontaires pour le scénario, mais ils ont été super efficaces.
Ouais.
Donc, nous deux, avec Geneviève surtout, et un petit peu avec toi, Anne-Laure, on les a encadrés, mais c'est vraiment eux qui ont rédigé leur scénario. Hein. Nous, on a tapé, et puis de temps en temps, on a...
Rectifier 2-3 choses,
mais voilà, honnêtement, c'est quand même eux qui l'ont écrit.
D'accord.
Ouais, et ils sont vraiment partis d'une situation concrète,
une situation réelle, en fait. Une
sorte de vécu plus ou moins précis, quoi.
Oui, c'est ça, ils sont partis d'une situation vécue.
Et on peut avoir une idée du vécu en question, de l'histoire de...
Alors, c'est tout bête, hein. C'est par exemple une fille qui arrive avec une coupe de cheveux toute courte, et puis il y en a un qui se moque d'elle en disant « mais t'as une coupe de garçon, quoi ».
D'accord.
Et voilà, ça démarre de là, ça part en vrille, et puis voilà, quoi.
Très bien.
Et du coup, après, donc on a recruté des acteurs parmi les élèves, donc pas les mêmes que les scénaristes.
D'accord, ok, ouais. Scénariste d'un côté, acteur de l'autre, ok,
voilà,
c'est intéressant.
On a eu 6 élèves qui ont accepté de tourner ce court-métrage.
Ouais.
Et donc, Pierre Villard et puis Benjamin Combe après, et puis moi, de temps en temps, on les a formés un petit peu au jeu.
Voilà.
On a fait avec eux la mise en scène, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons fait la mise en scène, on l'a vraiment fait avec eux, en mettant en jeu en fait le scénario, et puis on les a entraînés à jouer.
Ouais.
Et puis pour finir, eh ben dernière étape, la captation pour le coup. Alors avec Vincent Chabrier qui est un vidéaste, sa maison, enfin son entreprise, c'est 2CV Productions.
Ouais.
Donc il est venu sur une demi-journée avec son preneur de son au lycée. On a tourné les scènes et ensuite c'est Vincent qui a réalisé, en fonction de nos indications, qui a réalisé le court-métrage à partir des scènes qui avaient été tournées.
Très bien. Et donc, ce court-métrage est terminé, il est diffusé,
diffusable. Il est terminé.
il faut quand même qu'on précise que tout le projet a été cofinancé par le CSND et par la région Rhône-Alpes.
Ouais, ouais, tout à fait.
Voilà, on a fait des demandes et on les a obtenues. Mm-hmm. Et donc, la diffusion, eh ben, c'est cette année. Alors déjà, je crois que dès la fin de l'année dernière, hein, la vidéo a été mise en ligne sur le site du lycée.
OK.
Elle y est, vous pouvez la trouver.
Damnation, et... je ne le savais pas. J'ai raté ça.
Et puis, en fait, on a demandé cette année à l'ensemble des professeurs principaux de la diffuser au cours d'une vie de classe ou autre, et puis de la commenter un petit peu avec leurs élèves.
D'accord, d'accord, très bien. OK, donc la suite de l'aventure cette année, c'est de transmettre en quelque sorte à travers les différentes classes, à travers les profs principaux.
Oui, et aussi de former les délégués à la CNV.
Ah, ouais. D'accord.
Et de revenir et de boucler, en fait, par rapport au projet de départ qui émanait des délégués.
D'Hervé Bruno.
Maintenant, on va aller former ces délégués.
Très bien. Oui, ça serait bien qu'il y ait une transmission. Hein, d'accord.
Bah, c'est ça. Et on s'est dit que si on vise les délégués, il y en a deux dans chaque classe.
Ouais,
donc,
ouais.
Du coup, ils pourront répandre la bonne parole, entre guillemets.
Et puis, ils sont souvent bien placés parce que quand il y a des problèmes autour d'une classe, c'est eux qui sont au centre, en théorie. C'est, souvent, ils font du bon boulot, d'ailleurs.
Exactement.
Hein. Souvent, ils sont là, ils font le job. Donc, s'ils ont cet outil en plus, ça peut être vraiment très utile.
Tout à fait. Et puis, l'idée aussi, c'était une fois par période de proposer un atelier CNV plutôt à destination de ceux qui avaient bénéficié de la formation, pour faire une petite piqûre de rappel, se réentraîner sur une heure, par exemple, à imaginer une situation de conflit et voir comment on peut la résoudre. Parce que la CNV, quand même, on n'a pas été élevé comme ça.
Non,
et du coup,
ça
en fait,
soi,
au départ, ça peut vraiment paraître artificiel et ça demande vraiment de l'attention. Et même quand on est très convaincu, c'est très facile de se laisser repartir dans le pilote automatique d'abandonner ça. Et ça demande vraiment quand même de s'entraîner, d'y revenir, d'avoir des piqûres de rappel pour être efficace et puis le pratiquer de façon de plus en plus naturelle aussi, en fait.
Hein. Tout à fait, très
bien. Parce que moi, j'espère de tout cœur que pour mes enfants, ça sera quelque chose de naturel, du coup.
Très bien. Eh bien, c'est un beau projet. Nous allons remercier nos deux invités, donc Emma et Anne-Laure, pour cette présentation de la communication non violente.
Merci à vous.
Avez-vous un petit mot en conclusion à nous apporter ?
Eh bien, mon besoin de découverte est comblé.
De l'univers de la radio.
Voilà.
Très bien.
Et puis, contente de transmettre ça, parce que...
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est chouette d'en parler, je pense.
Merci à vous. Mathieu, bonne soirée les auditeurs, bonne soirée à tout le monde. Au mois prochain. C'est parti.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Calade 100.9.